émission, on va lancer cette journée. Ça va faire arriver les retardataires. Donc, bienvenue à l'espace Mendès France. Rapidement, peut-être vous redire deux petites choses sur l'espace Mendès France et ses journées d'études, et puis l'intérêt de l'espace Mendès France pour cette question des cabinets de curiosité. Les journées d'études sont devenues des rendez-vous incontournables de cette maison depuis déjà de longues années. Au milieu des années 90, le pôle d'histoire des sciences de l'espace Mendès France reste un peu comme une singularité ou quelque chose d'un peu particulier en France. Je me rappelle que mes collègues de la culture scientifique me demandaient d'abord déjà à peine ce que c'était que l'histoire des sciences, deuxièmement ce que foutait l'histoire des sciences dans la culture scientifique. 15 ans après, avec tout ce qui s'est passé au niveau scientifique, au niveau politique, on se rend compte que plus que jamais, on a besoin de ce retour sur le passé pour essayer de se mettre en perspective. D'ailleurs, puisqu'on parle des journées d'études de l'espace Mendès France, je vous rappelle qu'ici, voici quelques années, on a eu des débats animés, voire plus, autour de la laïcité, autour de l'immigration, autour de l'identité, autour du genre. Bon, on voit bien que cette question de la mise en perspective de nos problèmes contemporains, elle est plus non seulement que jamais d'actualité, mais elle est devenue vitale. Donc notre centre, à travers ces journées d'études, a toujours souhaité être présent, y compris de manière un peu pionnier, sur des thèmes qui nous intéressent. L'histoire des sciences, pour moi, c'est aussi une façon d'aborder la question de la culture et de ses rapports à la science par la mobilisation d'une communauté, avec Anne Bonnefoy, que tout le monde connaît ici et ailleurs, autour de l'histoire des sciences. En fait, on se rendra compte, puisque dans quelques semaines, on va fêter les 25 ans de l'espace Mendès France, que dans cette maison, il n'y a pas loin d'un millier d'historiens des sciences, politologues, sociologues, historiens, géographes, je vais en citer plein, qui sont venus et qui sont intervenus à travers 250 ou 300 journées d'études. Alors si je dis ça, c'est simplement pour vous dire que pour nous, l'histoire des sciences a été, depuis le début, à travers ces journées d'études, une façon de faire entrer les sciences de l'homme et de la société dans la culture scientifique et sa diffusion. Là aussi, c'est pareil. J'ai eu beaucoup d'interrogations, y compris, je me rappelle, d'un ministre de la Recherche qui est venu ici, me demandant ce que faisaient les sociologues dans une maison comme celle-là, parce que pour lui, les sciences, la culture scientifique, c'était maths, physique, chimie, biologie, éventuellement un peu environnement, et encore. Voilà. Donc pour dire que ces journées d'études, en fait, étaient le ferment d'une réflexion et d'une mobilisation de cette maison dans une autre façon de diffuser les sciences dans la société. Et puis, petite anecdote, puisqu'on va fêter les 25 ans de cette maison. Vous vous rappelez, quand l'espace Mendès France a été lancé en 1983, dans l'esprit, il y avait un combat à Poitiers, un combat souterrain, entre les tenants de la diffusion des sciences par l'objet et les tenants de la diffusion des sciences par le débat. La diffusion des sciences par l'objet était tenue par, on va aller le vite, par les muséographes et les responsables de musées, dont un qui était au musée Sainte-Croix à l'époque, et les tenants du débat étaient tenus par, étaient animés par les gens de l'éducation populaire. Donc le choix a été fait de ne pas faire un musée des sciences. Il n'empêche que très rapidement, moi, quand je suis arrivé ici, je me suis posé la question de replacer l'objet dans la divulgation de nos messages, et la question des cabinets de curiosité est arrivée dès l'ouvrage Aventure scientifique qu'on a coordonné ici avec Jean Dombre en 93, donc de 93 à 2013, d'aventure scientifique, les savants en Poitou-Charentes à l'avenue d'une réflexion sur les cabinets de curiosité grâce à Dominique Monconduit, un ami de la maison qui nous a aidé depuis plus d'une dizaine d'années à faire évoluer le parcours de culture scientifique de l'espace Mendès France. La question des cabinets de curiosité est venue sur le tapis. Petite anecdote, simplement, il y a très peu de temps pour la fête de la science, j'ai croisé le directeur du Futuroscope qui m'indiquait, alors vous allez peut-être le voir dans la journée, qu'il essaierait de venir à notre journée d'études. Donc, vous voyez, parc de loisirs, objets technologiques, images, cabinet de curiosité, bref, on bouclera peut-être la boucle. Puis autre anecdote, mais vous le savez, voici déjà pas mal de temps, la rue à côté de l'espace Mendès France, qui n'existait pas encore, s'appelle Pascal Lecoq. Pascal Lecoq ayant été un des pionniers qui l'ignorait encore de toute cette démarche. Donc voilà, donc plein de bonnes raisons pour que notre centre non seulement soit présent aux côtés du musée Sainte-Croix sur une exposition pour cette journée d'études, mais également pour irriguer sa réflexion sur la rénovation des rapports sciences et société et la refondation d'une nouvelle façon de faire de la culture scientifique. Cabinet de curiosité, pour moi, c'est pas une anecdote, c'est pas un instant comme ça, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le parcours de notre maison et on y reviendra sûrement dans les années à venir. Voilà, donc merci de votre présence, monsieur Monconduit, mon cher Dominique.
Ah, merci beaucoup à toi, Didier. Je commencerai comme il le faut, mais c'est nécessaire et légitime, en remerciant l'Espace Mendès France. Bon, Didier l'a rappelé, c'est tout un vieux compagnonnage maintenant. Bon, le projet sur le cabinet de curiosité qu'on a lancé avec mes collègues Pierre Martin et Mélia Marache il y a une bonne dizaine d'années, ben, il a été possible, à certains égards, par l'impulsion que vous nous avez donnée, l'université française et plus largement l'administration française, c'est compliqué. Quand on a des projets, en général, le tiroir aux enlisements s'ouvre tout de suite, si je puis dire. Bon, mais avec l'Espace Mendès France, on peut faire des choses. Ce n'est pas le tiroir aux enlisements, c'est la porte ouverte et bienvenue à vous. Voilà. Et ça, je tiens à le dire parce que c'est vrai, il y a des tas de choses qu'on n'aurait pas faites si vous n'aviez pas été là. Donc, je le dis, le site Curiositas, par exemple, que je vous invite à visiter si vous ne le connaissez pas encore, il a maintenant une dizaine d'années. Il a été possible grâce à ce partenariat avec Mendès France, avec Thierry Pasquet, avec évidemment Anne depuis toujours. Bon, ce site, il connaît une deuxième version depuis un an à peu près. Il existe grâce à l'énergie de mes collègues, Pierre Martin, puis Myriam, enfin un peu tout le monde, mais surtout mes deux collègues. Et je crois pouvoir dire que maintenant, c'est un site de référence, bon, qui reste toujours à compléter, à faire vivre. Mais bon, il y a déjà tellement de choses sur ce site que on peut le visiter, prendre quelques vacances même pour le visiter. Voilà, on peut s'y enliser quelques jours. Voilà, bon, alors, ce projet d'exposition La licorne et le bézoard, je vous montre le catalogue si vous ne le connaissez pas encore. Bon, c'est une exposition qui est pour nous un peu, peut-être pas un achèvement, j'espère pas, il ne faut jamais dire ça, mais enfin un point d'orgue provisoire de nos travaux. Eh bien, ce catalogue et l'exposition elle-même est le fruit d'un partenariat entre le musée Sainte-Croix, les musées de Poitiers et l'Espace Mendès France. Ça aussi, c'est assez exemplaire pour moi. Ce n'est pas toujours simple à monter. Donc, grâce à la bonne volonté des uns et des autres, ça, c'est fait. Bon, et puis, c'est l'occasion pour nous de mettre à profit, de mettre à disposition, en quelque sorte, de la vie culturelle régionale et d'abord de Poitiers, nos compétences, nos envies. Donc, ça a été une aventure partagée. Je salue ici Anne Péan qui m'a fait un message tout à l'heure, l'ancienne directrice maintenant des musées qui est partie sous d'autres cieux, mais qui devait venir et qui m'a fait un petit message pour me dire qu'elle pensait bien à nous, c'est gentil. Et donc on s'est attelé, on a souhaité accompagner cette exposition qui dure jusqu'au mois de mars. C'est un certain nombre de rencontres, très sérieuses, très scientifiques comme aujourd'hui, un peu plus ludiques comme par exemple le 30 janvier, il y aura une séance spéciale de l'Oulipo, qui sera l'Oulipo à Poitiers, autour de la thématique cabinet de curiosité. Donc, ils vont venir à 5 ou à 6. J'ai Olivier Salon hier au téléphone pour lire des textes qu'ils ont écrits sur les cabinets de curiosité. Voilà, ça sera la version plus ludique, qui a son côté sérieux aussi, bien sûr. Et puis, donc, une journée d'études comme celle-là, c'est le version plus scientifique. On essaiera de lui donner aussi un petit côté ludique pour ne pas s'ennuyer. Mais voilà. Et puis, avant que j'oublie, je redirai la date, mais il y a des conférences, etc. Il y a Christophe Pomian, notamment, qui sera là début décembre. Je ne sais plus quel jour c'est exactement, je vous le redirai tout à l'heure. Mais bon, Christophe Pomian, Jean Séard sont des autorités qui nous ont accompagnés depuis l'origine, ou quasiment. Et donc, je tenais à le saluer. Voilà. Donc, c'est vraiment exemplaire pour nous, ce type de travail. C'est une articulation inédite, non, parce que vous avez des tas d'articulations avec l'université. Mais enfin, pour nous, côté littérature et sciences humaines, c'est une des articulations fortes, cabinet de curiosité. Il se trouve que c'est devenu à la mode à peu près depuis l'époque où on a commencé à s'en occuper ensemble. Donc, je ne dirais pas qu'on a anticipé, mais enfin, on a senti qu'il y avait quelque chose qui intéressait pas seulement les scientifiques de tout poil, mais un peu plus maintenant le grand public. Je trouve que les cabinets de curiosité, c'est un objet vraiment passionnant, parce qu'évidemment, c'est un objet scientifique au sens large. Et on va le prouver aujourd'hui à notre manière. mais c'est aussi un objet, je trouve, qui permet de penser le monde moderne. Non, il ne faut pas exagérer, mais c'est un objet miroir à partir duquel on peut vivre des questionnements sur notre modernité, comme on dit. Voilà. Donc, cette journée d'études, il y en a eu 3 ou 4, je ne sais même plus, il y en a eu un certain nombre dans la maison, hein. Il y a eu même un colloque, etc. Cette journée d'études, elle portera sur la question du rapport de voyage amateur, je vais le présenter après. Et puis, il est programmé de faire une autre journée d'études, plutôt au musée Sainte-Croix ou en partenariat, je ne sais même plus où ça sera, peu importe, c'est le partenariat, le 11 mars, si je me souviens bien, sur la question de cabinet de curiosité et art contemporain. Voilà. Donc, c'est une question qui m'importe personnellement, que je trouve nécessaire. Aussi. Donc aujourd'hui, ça sera la version plus académique, classique, qu'on va mener. Et je remercie encore une fois très vivement l'Espace Malaise France, le musée bien entendu, de ces opportunités qui nous sont données. Voilà.
Juste un petit mot pour compléter ce que vient de dire Dominique. Les contenus de ces journées sont enregistrés et technologie aidant, compétences internes à la maison aidant, on les transmet via... une technologie qui porte un nom très, très français, le podcasting. Donc, vous retrouvez les contenus de nos journées d'études et c'est largement diffusé. Et Anne a une mailing list qui permet à chaque fois au niveau national de pouvoir donner ces éléments de contenu. Donc, lorsque vous intervenez dans ces journées, c'est juste un point de méthode. N'hésitez pas à dire qui vous êtes, où vous êtes, d'où vous venez. Ça permet aussi, lorsque nos futurs interlocuteurs vous écoutent, de savoir qui est là. Et puis, en termes de diffusion aussi, rappelez, si vous ne l'avez pas déjà vu, que nous disposons dans nos outils de diffusion d'une revue qui s'appelle L'Actualité Poitou-Charentes, qui a fait un certain nombre de pages et une très belle interview à travers Jean-Luc, ici présent, une très belle interview de Monsieur Pomian, dont on vient de parler, qui non seulement parle de cabinet de curiosité, mais aussi évoque la place de l'objet dans la société, ses rapports à l'art, à la science et à la connaissance. Et je trouve cette interview comme étant tout à fait centrale par rapport à un certain nombre de problèmes, y compris qui sont des problèmes politiques actuels au niveau de nos sociétés contemporaines. Donc, pour vous dire qu'on est aussi très, très soucieux de diffuser largement au-delà de notre région et de notre ère habituel de diffusion. Donc L'Actualité fait, avec le site internet de l'Espace Mendès France, fait œuvre de diffusion large vers une plus large audience. Anne, tu voulais rajouter quelque chose sur la journée? Non, mais... Donc je vais te laisser officier, faire Monsieur Loyal.
Bon, merci encore à toi. Et puis c'est bien, merci d'avoir parlé de l'actualité. Effectivement, je remercie... notre ami responsable, directeur de l'actualité ici présent. C'est un beau numéro, il y a des choses intéressantes, l'article de Pomian, enfin l'entretien avec Pomian, je trouve très réussi aussi. Donc voilà. Donc vous trouverez l'actualité là-haut, on pourra le voir tout à l'heure. Je vais dire quelques mots de présentation de cette journée avant de laisser la parole à notre ami Jean Yernard. Tout d'abord, vous donner quelques informations sur le programme, comme toute journée prévue un peu à l'avance, même si elle s'est organisée un peu tardivement, certains le savent, mais il y a quelques modifications dans le programme, donc je le dis pour ceux qui souhaitent en être informés. Notre ami Kees Mirhoff, de l'Université d'Amsterdam, avait dit qu'il risquait d'être empêché pour des raisons familiales, et malheureusement il l'est, donc vous ne l'entendrez pas, mais il sera, je ne dirais pas heureusement remplacé, parce qu'on aurait aimé l'entendre, mais enfin il sera légitimement, de cette manière, remplacé par mon collègue Pierre Martin, ici présent. Donc, en fin de matinée, nous n'entendrons pas Kees Mirhoff, qui malheureusement est toujours à Amsterdam, mais Pierre Martin. Et puis, attention, la visite de l'exposition n'aura pas lieu à 12h. J'ai souhaité que... Je savais que nous serions une quinzaine ou une vingtaine. Hein, c'est l'étiage habituel des journées comme celle-là. J'ai souhaité qu'on aille visiter l'exposition ensemble, pour ceux qui ne l'auraient pas vue encore. Et il se trouve, pour raison technique, au musée, ils font une fermeture provisoire de 12 à 13h15. Autrement dit, la visite ensemble de l'exposition de l'autre côté de la rue se jouera plutôt à 13h30. Voilà, donc pour les personnes qui s'éclipseraient en fin de matinée, revenez vers 13h30, on se donnera rendez-vous directement à l'entrée du musée à ce moment-là pour passer trois quarts d'heure, une heure dans la visite de l'exposition avant de reprendre effectivement à 14h30 et le programme de l'après-midi est inchangé. Voilà, je le redirai tout à l'heure, mais c'est important. Alors, je vais dire quelques mots d'introduction sur cette journée. On a fait avec mes collègues un certain nombre de travaux depuis une dizaine d'années. Je rappelle qu'on avait fait un premier volume, Curiosité, Cabine Curiosité, il y a 7-8 ans maintenant, qui était une première manière de prendre date sur les travaux que nous engagions. Il y a maintenant ce gros catalogue. Bon, et on souhaite continuer nos travaux sur des questions qui sont importantes, qui peut-être paraissent marginales, mais au fond, en les travaillant, elles nous apparaissent vraiment importantes. Et donc, on a voulu faire cette journée sur rapport de voyage d'amateurs de curiosité, visite écrite, visite construite. Moi, je ne vais pas relire entièrement l'argumentaire que nous avions fait diffuser, mais rappeler au fond quel est l'enjeu pour nous de ces réflexions d'aujourd'hui, c'est d'examiner quelques cas, ouvrir au fond un chantier de travail sur la manière dont on connaît au fond les cabinets de curiosité. Les cabinets de curiosité, on les connaît par des représentations figurées, des frontispices, etc. Mais on en a déjà parlé, on sait qu'ils sont sujets à caution, qu'il ne faut pas les prendre au pied de l'image, si je puis dire. Mais penser à réfléchir à ce que ces images-là véhiculent de stéréotypes, et parfois de mensonges, etc. On les connaît, les cabinets, par des catalogues. Là aussi, les catalogues méritent une attention particulière et on est en train de lancer un travail de ce côté-là avec mes collègues de sciences humaines, d'ailleurs. Et puis, on les connaît par un certain nombre de textes qui ont différentes natures, qui constituent des récits de visite de cabinets de curiosité. Je vous rappelle que les cabinets de curiosité, à la fin du XVIe siècle, au XVIIe siècle, et un peu encore au XVIIIe, ça dépend des régions ou des pays, les cabinets de curiosité constituent des lieux à visiter. Et à l'heure où apparaissent les premiers guides touristiques avant la lettre, c'est vrai qu'il y a des petits ouvrages qui ont cette vertu-là, en France en tout cas, au moins dès la fin du XVIIe siècle, ou dès le milieu du XVIIe siècle au moins, eh bien, on fait une sorte de liste, des catalogues qu'il faut visiter. Et on sait très bien, mon collègue Lorenzo ici présent le sait mieux que moi, mais il y a des tours d'Europe de la curiosité. Il y a une république des curieux, comme dit Lorenzo, il a raison. Des tours d'Europe de cabine de curiosité. Les étudiants, par exemple, lorsqu'ils font leur tour d'Europe de formation, eh bien, ils vont visiter des villes, mais ils vont aussi visiter éventuellement des cabinets. Jean-Bernard nous en parlera certainement. De sorte qu'il y a effectivement un réseau d'informations, on pourrait dire, souvent minimal, sur les cabines de curiosité qu'on peut visiter aussi ou là. Alors ça, voilà, il y a un type d'ouvrage où ils sont évoqués, mais il y a parfois des récits, enfin des relations de voyage qui font une sorte de rapport, de compte-rendu des visites. Alors, je vais en citer un, je l'ai sous les yeux, je vais en dire un mot pour ouvrir la journée. C'est Charles Patin, sur lequel je suis en train de travailler. Il intitule son ouvrage « Relations historiques et curieuses de voyages en Allemagne, Angleterre, Hollande, etc. » Ce texte ayant une vocation particulière parce qu'il est au fond une sorte de rapport, il constitue une sorte de rapport suite à la mission, aux missions effectuées par Charles Patin. Il est mandaté par des princes pour aller visiter des cabinets et en rendre compte. Donc, rien qu'en disant cela, je précise que les relations de ces visites sont particulières puisqu'elles sont tournées vers un destinataire spécifique. Et au fond, nos travaux aujourd'hui porteront sur cette question, comment on raconte une visite dans un cabinet de curiosité? Est-ce qu'il y a des protocoles spécifiques qui seraient peut-être stéréotypés? Bon, et ou bien est-ce que chaque récit invente son protocole particulier? Raconter une visite, c'est constituer une forme de description du cabinet. Ça peut être simplement extrêmement sommaire, sur le mode du « il y a ». Dans tel cabinet, il y a telle chose. C'est ce que fait Charles Patin souvent. Et puis, dans d'autres cas, au contraire, la visite s'agrémente, j'allais dire, de détails. Par exemple, on précise qui fait visiter, comment on est accueilli, dans quel ordre on découvre les curiosités, à quel point certaines sont rares et à quel point d'autres ne le sont pas, etc. Bref, quand on regarde ça un petit peu de près, le récit de visite peut obéir à des régimes textuels, si je puis dire, totalement différents. Et ça nous a semblé intéressant de prendre cette journée pour réfléchir à ces questions-là. D'autant plus que raconter le récit d'une visite dans un cabinet, c'est faire exister d'une certaine manière le cabinet par l'écrit. C'est d'autant plus vrai que dans un certain cas, lorsqu'il s'agit de certains ouvrages catalogues, disons, les auteurs ne manquent pas de dire que grâce au livre, le cabinet existe aussi à sa manière par le livre. Donc, raconter un cabinet, je le dis ainsi délibérément, ou en constituer un catalogue, etc., c'est le faire exister textuellement. C'est en construire une représentation qui sera connue par, évidemment, un plus grand nombre de personnes que par la visite elle-même, le plus souvent. Et raconter la visite d'un cabinet, c'est aussi raconter ce rapport que le visiteur peut avoir à ce cabinet réel par rapport à l'image qu'il s'en faisait. Je prends un exemple, Charles Patin, lorsqu'il va au château d'Ambras près d'Innsbruck, il est évident qu'il connaît ce château et la collection qu'elle abrite, la grande collection des Habsbourg. Il la connaît pour avoir lu des textes qui en parlaient, pour en avoir entendu parler dans telle cour européenne. Et donc, lorsqu'il se rend à Ambras, assurément, il n'y va pas totalement pour découvrir, mais pour vérifier que ce qu'on lui a dit est conforme à la réalité. Visiter un cabinet, dans la plupart des cas, ou dans beaucoup de cas, me semble-t-il, c'est aller, au fond, confronter l'image qu'on se fait de ce cabinet avec la réalité de ce qu'il est effectivement. Bon, d'où un certain nombre de polémiques. Je dis pas un mot au passage du cabinet de Paul Content, dont mes collègues et amis Myriam et Pierre ont donné une réédition définitive, comme on dit. Bon, mais il y a eu toute une campagne de presse quasiment contre ce cabinet, enfin contre plutôt Paul Content, puisque la manière dont il présentait ce cabinet paraissait à certains comme fallacieuse, trompeuse. Alors, vrai ou non, je ne m'attarde pas sur la question, mes collègues en parleront éventuellement s'ils le souhaitent ou s'il y a des questions là-dessus. Mais au fond, voilà, c'est un exemple comme un autre, et Poitevin en l'occurrence, du fait que raconter un cabinet, décrire un cabinet, constituer un ouvrage, un catalogue ou un poème en l'occurrence autour d'un cabinet, c'est toujours en offrir une représentation selon un certain nombre de protocoles et de choix qui peuvent être trompeurs, qui peuvent être erronés, qui toujours, en tout cas, construisent un regard, construisent un mode de lecture et offrent une image de ce cabinet. Tous les textes dont on va parler, ils ont vocation à faire exister, abstraitement en quelque sorte, le cabinet tel que celui qui lira ne le verra pas, ou pas tout de suite. Alors, je terminerai, c'est quelques mots d'introduction, en citant deux passages de Charles Patin, justement. Charles Patin, j'y reviens, c'est un érudit français qui a une vie un peu acrobatique pour des raisons politiques sans doute et un petit peu ambiguës ou mal connues pour d'autres. Bref, il se fait mandater par des princes essentiellement germaniques pour visiter des cabinets de curiosité européens et donc il publie ses relations historiques et curieuses de voyage. Il y a plusieurs éditions à la fin des années 1670 et dans les années 1680. Je ne rentre pas dans le détail. Simplement, je voulais citer deux exemples à propos des visites qu'il fait à Vienne et à Innsbruck. Je commencerai par Innsbruck. C'est un texte très important parce que c'est une des relations de voyage ou de visite les plus complètes du château d'Ambras. Alors vous pouvez encore aujourd'hui aller à Innsbruck, faire du ski sans doute, mais aussi visiter le château d'Ambras. Et vous y verrez la collection, ce qu'il reste, il en reste beaucoup, la collection des Habsbourg. Et vous pourrez vérifier, si vous avez lu auparavant le récit qu'en fait Charles Patin dans les années 1680, vous pouvez vérifier qu'une partie de la collection n'a pas changé depuis plus de trois siècles. Et donc, le récit qu'il en fait est tout à fait passionnant parce qu'il est assez précis. Alors, ce récit, il a pour vocation de renseigner le prince qu'il a mandaté. Il a été missionné pour aller visiter le cabinet et voir ce qui s'y trouve. Et surtout, il a été missionné pour préciser à quel point les objets réunis dans tel cabinet sont précieux ou non, s'ils méritent aussi éventuellement une négociation pour un échange ou un achat. Je vous rappelle que le monde des cabinets de curiosité, c'est aussi un monde de négoce, c'est un monde d'échange, c'est un monde de commerce en quelque sorte. Bon, c'est aussi un monde de commerce par le verbe, c'est aussi un monde de dialogue, puisque les cabinets, ils se visitent aussi pour qu'on en parle, pour être évoqués par le discours. Donc, dans sa relation, je vais l'évoquer juste en quelques mots, sa relation de la visite du château d'Ambras et de son cabinet, ses galeries, etc., il opère beaucoup sur le mode du « il y a ». Je passais dans deux galeries pleines de toutes les différentes armures qui sont en usage aujourd'hui, qui étaient dans les autres siècles, etc. Bon, il fait comme une sorte de liste, une sorte d'inventaire, on pourrait dire, de ce qu'il voit, de ce que renferme la collection. mais il agrémente son récit d'un certain nombre de commentaires. Je relis ici ce passage-là. « Je passais dans deux galeries pleines de toutes les différentes armures qui sont en usage aujourd'hui et qui l'étaient dans les autres siècles. Elles me firent faire cette réflexion que les hommes, pour avoir des peaux de fer et d'acier, ou au moins des habits de cette étoffe, n'étaient ni invulnérables ni immortels. » Bon, c'est un exemple que je prends, pas tout à fait au hasard, mais presque. La visite ici, alors c'est intéressant parce qu'il ne dit pas d'abord qui l'accueille à Ambrace, par qui la visite est guidée ou pas. Bref, tout se passe comme s'il allait à Ambrace et ça y est, il est dans le château, il est dans la collection et il regarde. C'est très significatif chez Charles Patin. Il a tendance à omettre délibérément, bien sûr, tout le protocole d'entrée. Un certain nombre de frontispices nous montrent qu'on peut visiter un cabinet sous la conduite du propriétaire, par exemple. Je ne parle pas ici des cabinets des grands princes, mais de cabinets d'apothicaires ou d'érudits. Dans le cas des grands cabinets princiers, on sait qu'il y a un intendant, par exemple, ou un grand chambellan, ou que sais-je, ça dépend, quelqu'un qui a la fonction de faire visiter, à la demande du prince, aux visiteurs qui sont accueillis. Donc, pour Charles Patin, visiter le château d'Ambrun, c'est forcément avoir été accueilli, c'est forcément être accompagné. On ne le laisse pas visiter seul, certainement pas. Mais il omet délibérément ce genre de détails, jusqu'au moment où, dans son récit, il fait allusion à la personne qui l'a accueilli, mais au fond, c'est de manière incidente. Il construit, au contraire, par son récit, l'idée qu'il est quasiment chez lui. Et ça, c'est un phénomène d'écriture qui est vraiment intéressant. On a l'impression qu'il arrive, les portes sont ouvertes, et son érudition, évidemment les lettres qu'il porte et qu'il présente, il faut montrer patte blanche, assurément, mais son érudition, son statut, lui ouvre les portes immédiatement, et au fond, oui, tout se passe comme s'il était quasiment chez lui. Alors c'est un effet textuel. Ça permet aussi, vous voyez bien tout de suite, de constituer une représentation du visiteur. Le fait qu'il n'ait pas à dire ou à donner des détails sur la manière dont il pénètre dans le cabinet, comment il est accueilli, etc., c'est une manière de dire au fond qu'il y a sa place et que, mandaté par des princes, les princes eux-mêmes y ont leur place. Et je crois que c'est un effet significatif du texte. Je continue un tout petit peu ce passage. Donc, il décrit les armes qu'il voit en bras. C'est une grande collection d'armures et d'armes. « J'y vis les armes des deux Maximiliens, de Charles Quint et de quelques autres empereurs. J'y vis celles du roi François Ier. » C'est un Français, donc il s'y intéresse particulièrement. « J'y vis celles du roi François Ier avec l'habit qu'il avait à la bataille de Pavie, ce qui m'est fait souvenir que j'en avais déjà vu un au cabinet de Bruxelles. De telle sorte qu'en ce jour-là, le roi François mit donc deux habits où ses habits furent partagés pour en faire valoir la conquête à Bruxelles et à Innsbruck. » Bon, alors je prends ce passage parce qu'il est plaisant. Il s'autorise des remarques un peu perfides, un peu ironiques, de constater que effectivement c'est une sorte de relique, c'est une relique moderne. Voilà, ce sont les habits du roi français au moment de sa défaite, n'est-ce pas? Et puis on sait bien que l'épée aussi a été faite prisonnière, j'allais dire. C'est Napoléon qui la rapporte en France, je me souviens bien. Bon, c'est une sorte de relique moderne. Et Charles Patin s'amuse ici à remarquer que ces reliques ont été partagées. Lorsqu'il dit que ces habits furent partagés, ce n'est pas une expression, ça renvoie à ce qu'on faisait au Moyen-Âge ou à ce à quoi on croyait au Moyen-Âge, à savoir partager des reliques et les diffuser pour les mettre dans plusieurs églises, par exemple, plusieurs sanctuaires. Donc, évidemment, il s'amuse ici. Il s'amuse parce que la référence, l'exemple qu'il donne, et moderne. Bon, je continue dans ce passage-là. Celle de Charles IX, roi de France, parle des habits et des habits de guerre, des habits officiels. Celle de Charles IX, roi de France, de Ferdinand et de Philippe, roi d'Espagne, de Don Juan d'Autriche et d'une infinité d'autres princes. On me dit que celles-ci étaient les mêmes qu'il avait portées à la fameuse bataille de Lépante. Alors, je m'arrête une minute sur ce on me dit. Évidemment, il fait référence ici à la personne qui l'accompagne durant la visite, mais on ne sait pas. Pour l'instant, on le saura plus loin, mais on ne sait pas de qui il s'agit. Voilà. Durant la visite, quelqu'un lui dit, il y a un « on ». Ce n'est pas une vox populi, c'est la personne qui est légitimée pour faire visiter, qui lui donne un certain nombre de renseignements. Alors, c'est un détail, mais il est significatif, parce qu'au fond, on voit bien que dans ce type de visite, il y a bien quelqu'un qui fait visiter, même s'il est laissé dans l'ombre, quelqu'un qui fait visiter et qui donne un certain nombre de détails historiques. Au fond, qui construit un mode de lecture de l'objet collectionné. Cette épée, ce n'est pas n'importe quelle épée, c'est l'épée ayant appartenu à tel prince ou c'est le costume de guerre de tel prince. Et donc, la légitimité de ce costume ou de cette épée de figurer dans la collection nécessite, suppose et nécessite un discours d'escorte, en quelque sorte. Il faut préciser que c'était l'épée de François Ier à la bataille de Pavie pour légitimer le fait qu'elle soit dans la collection. Bon, ou bien de dire que c'était l'habit que portait tel roi, tel empereur à la bataille de Lépante, ce qui légitime qu'elle soit dans la collection. Alors, ça vous amène à réfléchir, ça nous amène à réfléchir sur la légitimité des objets collectionnés. Et dans un certain nombre de cas comme celui-ci ou cela, vous voyez bien que ce qui légitime le fait que l'objet soit dans la collection, c'est qu'il soit escorté par un discours. Il faut donc quelqu'un qui raconte une histoire, en quelque sorte. Ça peut être un livre qui le fait, ça peut être un catalogue, mais ce n'est pas encore un cartel qui, dans les expositions modernes, raconte des choses. Non. Il faut quelqu'un qui escorte, j'aime bien ce mot-là, qui escorte l'objet pour légitimer qu'il soit présent. Et donc, vous voyez bien que ça suppose aussi que le visiteur soit susceptible d'accepter ce discours d'escorte, soit d'y croire, soit de ne pas y croire et donc capable de le décrypter. C'est ce que fait Charles Patin. Il visite au fond ses cabinets, d'une part pour observer ce qui s'y trouve, décrire ce qui s'y trouve, éventuellement dénoncer les objets fallacieux, enfin des défauts, mais aussi pour dénoncer les discours qui ne tiennent pas debout, en quelque sorte, pour dénoncer les discours d'escorte construits autour des objets. La preuve ici, avec l'ironie ou le persiflage sur le vêtement de guerre de François Ier, mais il y en a d'autres objets ailleurs. Bref, le récit, la relation, le récit de voyage ici consiste aussi à contester ou commenter ce « on me dit que ». C'est-à-dire ce discours d'escorte, ce discours qui accompagne le curieux et qui, en quelque sorte, autorise le visiteur à se construire une certaine représentation du cabinet en question. Alors, dans cette même relation de visite d'Ambrasse, il évoque ensuite, je prends juste un autre passage, il évoque également la représentation d'un géant et d'un nain. Je lis très vite ce petit passage. À un bout de l'une des galeries, c'est toujours le château d'Ambrasse, je vis la représentation d'un géant et d'un nain dont on avait eu à Vienne les originaux vivants. Alors, j'en profite pour rappeler l'importance d'une telle notation. Clairement dans l'esprit de Charles Patin, visiteur agréé, légitime, etc., à se retrouver au château d'Ambrasse, au lieu des collections des Habsbourg. Il trouvait des représentations d'un géant et d'un nain, des tableaux ou des gravures, des tableaux existent toujours. Eh bien, c'est avoir une image transposée des géants et des nains qui ont effectivement participé à la vie de la cour à Vienne, voire à Ambrasse, hein, dont on avait eu à Vienne les originaux vivants. Les tableaux, à ce moment-là, se substituent aux originaux vivants. Pardon pour le nain et le géant de parler comme ça d'eux, mais c'est exactement cela. Bon, soit on peut avoir un nain et un géant véritable, si je puis dire, vivant dans la collection. Lorsqu'ils ne sont plus présents ou plus vivants, on les remplace par des images. Alors, ce détail est intéressant, il est même croustillant, et puis Patin va l'évoquer un tout petit peu, je vais le dire en deux mots, mais il est significatif aussi de la nature de l'objet réuni dans une collection, l'objet collectionné. Dans une collection, dans un cabinet de curiosité, c'est pas n'importe lequel, hein, le château d'Ambrasse, c'est le sommet quasiment de la collection princière. Bon, on peut avoir les objets réels, pardon pour le géant et le nain, ou bien on peut avoir leur représentation, et au fond, je ne dirais pas que c'est la même chose, mais ça fonctionne en tout cas de la même façon. Avoir une représentation d'un nain ou d'un géant, c'est rappeler qu'un nain et un géant vivants ont leur place dans les cabines de curiosité. Leur place éphémère, tant qu'ils sont vivants. Ça permet aussi, j'aime bien cet exemple, ça permet aussi de rappeler que les nains et géants qui font partie de la vie de cour, vous savez bien, surtout les nains, la vie de cour des Habsbourg, et on pense à tel roi d'Espagne, etc. Bon, eh bien, ils ont leur place en réalité dans les cabines de curiosité. Autrement dit, il y a un lien évident ici, alors du côté de la perception des Habsbourg en tout cas, entre quelque chose de la vie de cour, pardon de parler comme ça, mais je dis délibérément ainsi, quelque chose de la vie de cour, la présence des nains par exemple, et une préoccupation qui est celle des camitulités. Il n'y a pas de rupture absolue. Au contraire, je trouve que les nains et les géants sont un des cas, si je puis dire, où la proximité entre vie de cour réelle et camitulité est évidente. De même qu'à Vienne ou à Habsbourg, lorsque la cour s'y, à Ambras, lorsque la cour s'y déplace, il y a effectivement un nain ou un géant, eh bien, il doit y avoir, il peut y en avoir dans les camitulités, et lorsqu'il n'y en a pas de réel, il y a leur représentation. Et c'est d'ailleurs intéressant, Patin continue sa relation ainsi, c'est une chose surprenante que cette exorbitante inégalité de taille entre deux hommes, le plus vieux ne pouvait porter sa main au nombril de l'autre. On fit un vaudeville de ce que ce nain donne un soufflet au géant. Il est vrai que celui-ci ramassait le gant de l'empereur, qu'il ne l'avait laissé tomber que pour le mieux disposer à la portée du soufflet. On aime encore à Vienne ces jeux de la nature, soit qu'on y admire sa capacité de pouvoir faire des hommes de plus d'une sorte, soit qu'on y admire son égarement, etc. etc. Bon. Donc Patin se met non seulement à passer par l'anecdote, et c'est certainement une anecdote qu'on lui a servi durant la visite, que tel nain en représentation a osé donner un soufflet à tel géant représenté. Ça, c'est une anecdote qui escorte assurément la visite. Et par ailleurs, il en profite, je ne lis pas tout le passage, parce que je vais aller vite, mais il en profite pour dire que, de son point de vue à lui, de Français mandatés par des princes germaniques, certes, mais de Français, vous savez bien qu'on n'a pas les mêmes traditions, le même regard à ce moment-là, au milieu du XVIIe siècle, sur les nains, etc. Et bien, de son point de vue à lui, de Français, c'est non seulement très étrange que la nature ait produit des monstres, entre guillemets, comme cela, mais il est au fond aussi très étrange que les Habsbourg s'amusent avec ces nains et ces géants dans leur cour. Et il précise à ce moment-là un regard particulier qui se regarde à lui, de Français, un Français qui s'étonne que dans cette cour, qui n'est pas n'importe laquelle, on ait ce type d'occupation. De son point de vue, ça dit quelque chose du propriétaire du lieu, l'empereur, et ça dit quelque chose d'une différence socio-historico-culturelle entre la cour de France et cette cour-là. Voilà, je trouve ça intéressant. Un dernier exemple, et après je m'arrête vraiment, dans sa relation du voyage à Vienne. Alors évidemment, il décrit, je n'ose pas dire qu'il décrit, il fait plutôt la liste de ce qu'on trouve dans les collections viennoises, c'est une partie des collections des Habsbourg, évidemment. Par exemple, il dit, on voit dans une chambre, alors une chambre de la très grande collection qui s'y trouve, la représentation de Philippe II avec ses armes d'or massif chargées de diamants. Cette effigie superbe répond bien à la mémoire d'un si grand prince qui a épandu ses richesses parmi le monde et transporté le Pérou dans l'Europe. On y garde le juste au corps de buste que Gustave Adolphe portait à la bataille de Lutzen, etc. etc. Alors c'est toujours sur le mode du « on y voit, on y garde, il y a ». Il fait simplement une liste. Mais il y a un passage que je trouve très savoureux et passionnant, sur lequel je m'attarde un instant. « Ne serait-ce point trop, monseigneur ?» Alors il s'adresse à un prince allemand. Il y a ici une double énonciation, en quelque sorte. Je vous rappelle que ce type de texte est très particulier parce que c'est un texte, c'est une relation de voyage écrite à destination d'un commanditaire. Patin a été missionné. Bon, mais cette relation de voyage, elle est ensuite publiée. Elle donne lieu à un livre, il y a plusieurs éditions. Donc, elle est diffusée assez largement. C'est réédité. Autrement dit, on n'oublie pas qu'on construit dans cette relation de voyage aussi une image, une représentation de celui qui a commandité la mission. Le passage est très, très clair ici. Il interpelle le commanditaire, ne serait-ce point trop monseigneur, de vous parler de son Altesse, Sa Majesté impériale, SMI, Sa Majesté impériale, des pensées médiocres comme les miennes en pourraient-elles fournir un caractère un peu ressemblant. J'ai eu l'honneur d'être auprès d'elle dans sa galerie des peintures. Alors, je m'arrête un tout petit peu là-dessus. Depuis, ça fait deux pages qu'il raconte cette visite. Il ne dit pas qui l'a fait visiter. Bon, il y a une incidente où il dit qu'il a été introduit, bon, mais il ne dit pas qui l'a fait visiter, tout à fait, il ne dit pas exactement dans quelles conditions il a visité. Et voilà qu'au détour d'une phrase, après cette précaution oratoire d'interpeller le destinataire du texte et le commanditaire, il en vient à préciser qu'il a eu l'honneur d'être auprès d'elle, Sa Majesté impériale, dans sa galerie des peintures, lorsqu'elle visitait, elle, Sa Majesté impériale, lorsqu'elle visitait son trésor de médailles antiques. Alors, tout le monde comprend. Il se trouve en train de visiter et tout d'un coup, Sa Majesté impériale apparaît. C'est fortuit. Enfin, le texte construit l'idée que c'est fortuit. On peut supposer que ça ne l'est pas forcément, mais le texte construit la représentation d'une rencontre fortuite dans ses collections. Tout d'un coup, le prince apparaît. Donc, j'ai eu l'honneur d'être auprès d'elle dans sa galerie des peintures lorsqu'elle visitait son trésor de médailles antiques. J'y vis pendant 3 heures et demie la conversation d'un empereur romain, en train de visiter les médailles antiques, avec ses prédécesseurs. C'est ce qu'on ne pouvait voir ailleurs. C'est là qu'un discernement plus sublime et plus vaste que le mien en aurait fait la comparaison à la vue. Il ne me sembla point que les morts effaçassent le vivant, en qui je voyais tout ce que je savais et tout ce que j'avais lu des autres. Son intelligence, sa piété, sa justice et sa clémence sont dans ce degré de perfection qu'on ne voit guère en idée dans le monde. Alors, je m'arrête là, mais comprenez bien la situation. Il se trouve que pendant la visite, Sa Majesté impériale apparaît, et le visiteur Charles Patin construit ici le récit d'une sorte d'apparition. C'est quoi cette apparition ? C'est l'idée que l'empereur, Sa Majesté impériale, a parfaitement sa place dans cette galerie, et qu'au fond, la conversation d'un empereur romain avec ses prédécesseurs, c'est l'idée qu'il a vérifié, vous vous rappelez du verbe, j'y vis pendant 3 heures et demie, il est témoin, il voit. Le visiteur ici se transforme au fond en garant de quelque chose de fondamental, à savoir la légitimité qu'il y a pour un prince non seulement à visiter, mais à posséder une telle collection. Qu'est-ce qu'il y voit, Charles Patin ? Il y voit, je répète, l'expression est vraiment importante, je trouve, la conversation mentale, figurée, d'un prince, d'un empereur romain avec ses prédécesseurs. Si je lis bien le texte, l'empereur romain, c'est l'empereur d'Habsbourg. Bon, donc, ça veut dire qu'il est en train de confirmer, c'est la vieille translation impérie, c'est la vieille idée que, voilà, l'empereur habsbourgeois est un empereur romain, et ce qui fait qu'il le sent, qu'il le vérifie, lui, le visiteur, c'est que l'empereur d'Habsbourg, habsbourgeois, il est là en train de regarder, d'observer des médailles antiques, il est au milieu des représentations de ses prédécesseurs. D'accord ? Donc Charles Patin, visiteur, se retrouve en train de légitimer tout un discours politique et même une idéologie qui a traversé toute l'Europe pendant des siècles. Et le visiteur ici, vous voyez, par un événement qui est donné comme fortuit, qui à mon avis ne l'est pas du tout, il nous dit des choses sur la légitimité de collectionner. Pour un prince habsbourgeois, il y a une vraie légitimité à la collectionner parce que ça correspond à ce qu'il est. Il nous dit des choses aussi sur un certain usage de la collection. Visiter la collection avec l'empereur, c'est au fond pas seulement vérifier intellectuellement, mais c'est expérimenter. J'y vis. C'est voir que l'empereur, il a quelque chose de commun avec voilà, ses médailles antiques, etc. C'est faire l'expérience véritablement de l'importance idéologique de ces cabinets et de ce qu'ils donnent à voir, en quelque sorte. Ce n'est pas une collection morte, ce n'est pas un musée au sens académique du terme, et pardon pour les musées, je n'ai rien contre les musées, mais contre un certain usage des musées, si vous voulez. Pas du tout. Cette collection, elle est vivante, et cet empereur qui passe par hasard, eh bien, on nous dit aussi qu'il a déjà sa place dans ce musée-là, non pas parce que c'est un personnage historique, c'est parce qu'il y a une continuité. Voilà. Alors, je me tourne vers mon collègue Jean, l'historien qu'il est. Je crois qu'on est vraiment dans un signe ici, qu'une telle visite, une telle relation de visite, l'une de ses vocations, à mon sens, c'est de raviver le sens de la continuité historique, de faire sentir que, oui, tel empereur contemporain, ce n'est pas qu'il a sa place en tant qu'objet de curiosité, ce n'est pas ça. Il a sa place au milieu de sa collection parce que sa collection, de certaine manière, elle le dit. Elle dit ce qu'il est. Elle dit son essence, quasiment, d'empereur romain moderne. Alors, on parle bien de cabinet princier. Si on était chez Paul Contant, ça ne fonctionnerait pas de la même façon. Mais la relation de voyage ici, très clairement, je crois que là, cet exemple-là est très, vraiment très limpide, la relation de voyage, dans un cas comme celui-là, très particulier, encore une fois, c'est Patin est missionné pour construire une certaine représentation. La relation de voyage, elle concourt, pas plus, mais elle concourt à nourrir et à faire vivre un certain nombre de représentations proprement idéologiques dans lesquelles les cabinets de curiosité ont un rôle absolument décisif. Ici, c'est parfaitement clair. L'empereur, il le dit plus loin, je ne lis pas tout, l'empereur vient visiter son cabinet pour se ressourcer en quelque sorte, pour venir voir dans les médailles antiques quel empereur il doit être. Cette collection, elle a aussi cette vocation-là de lui rappeler, au fond, ce que doit être un bon empereur. dans le cas de cabinets princiers comme cela, c'est très clair, mais vous voyez bien que c'est un effet du texte. Le texte insiste sur cette vocation du cabinet, et implicitement, c'est aussi un portrait de l'empereur, et un éloge de l'empereur. Donc la relation de voyage ici, très clairement, on n'a pas pour but simplement d'évoquer des curiosités, d'en dire le prix, etc. Il y a des intentions, disons, politiques évidentes. Je vais préciser l'exemple, pas tout à fait au hasard, je travaille sur ce livre-là, mais c'est un exemple particulier, j'y insiste, cabinet princier. Mais je conclurai d'un mot en disant que décrire un cabinet princier, la visite qu'on en fait, c'est inévitablement brasser du politique, de l'idéologique, et chaque visite particulière est l'occasion, au fond, de traverser, de rencontrer ces questions-là. On n'est pas visiteur touriste, si je puis dire. Dans ces cabinets-là, ça n'est pas possible de toute manière. C'est trop sensible, on y croise trop de choses, et puis la vocation spécifique de ce visiteur mandaté par un prince, c'est aussi, bien entendu, d'aller vérifier quel type de prince on visite à travers la visite de son cabinet. Merci. J'ai pris un petit peu de temps, mais je voulais lancer les choses et puis on s'était mis d'accord avec mes collègues. Donc, oui. Oui. J'ai pris un peu de temps, mais je voulais. Oui, Hans, s'inquiète du timing. J'ai pris un peu de temps parce que je voulais lancer un peu les choses comme ceci. Et je vais m'arrêter là et donc passer la parole tout de suite à Jean Garnard. Et puis s'il y a des questions tout à l'heure sur ce que j'ai dit, on en profitera. Alors, Jean Garnard, je vais lui laisser la place. Donc, c'est évidemment, un historien de Poitiers que tout le monde connaît. Il travaille beaucoup sur les livres d'amis, il travaille beaucoup sur les voyageurs, les étudiants voyageurs en Europe, si je puis dire, je le dis mal et très vite. Et je lui ai demandé instamment de venir contribuer à nos travaux en nous présentant ce qu'il sait ou ce qu'il a envie de nous dire en ce moment, puisque c'est un travailleur infatigable, sur les voyageurs en visite à l'époque d'Henri IV. Merci beaucoup à toi d'être là.
Bien, merci. Je vais essayer d'abord de tenir le temps. Une demi-heure, c'est ça? Oui. Enfin, tu seras impitoyable. J'espère que ça ne va pas partir dans tous les sens. Et puis, ça a un aspect un tout petit peu improvisé parce que je n'ai pas préparé ça depuis des mois. Donc, voilà. Je vais rebondir sur ce que Dominique vient de nous dire parce que, au lieu de le faire dans le cours de mon exposé, par exemple, je suis très sensible à cette histoire d'armure de François Ier. Évidemment, ça fait penser au traité de Calvin, le traité des reliques, parce que ce sont des reliques modernes. Alors, Calvin, c'est un livre à lire, hein. Traité des reliques, c'est extrêmement moderne quand il dit là, il y a la tête de Jean-Baptiste, puis elle est là aussi, là aussi, là aussi. Évidemment, c'est. Très ironique et c'est un peu la même chose dans le cas. Alors, aussi j'ai pensé à, parce que la curiosité, je vais le dire une fois, je le dirai peut-être 20 fois, la curiosité c'est pas seulement les cabinets, c'est-à-dire que dans les livres de voyage, dans les récits de voyage, on voit que les gens sont animés par une curiosité qui est de tous les temps. Ah, évidemment, je ne vais pas enfoncer les portes ouvertes en disant qu'il y avait eu les pèlerinages avant, que c'était déjà de la curiosité, que les églises présentaient étaient de véritables cabinets de curiosité en quelque sorte, sacrés, mais que c'est un peu les mêmes, ce sont un peu les mêmes objets, hein, la licorne, la griffe du griffon, toutes ces choses-là, bien. Maintenant, c'est devenu profane, mais il n'empêche que tous les voyageurs dont je vais vous parler sont tous luthériens ou calvinistes, ils vont quand même voir les reliques, ils y vont. Il y a même un véritable pèlerinage au Mont-Saint-Michel. Ils y vont. Hein, ce n'est pas sur la route, mais ils y vont. Et donc, il y a cet aspect. Et je pensais à la visite. Alors, je n'aurais pas grand-chose à dire sur les conditions réelles de la visite et qui accompagne qui. Je suis bien persuadé qu'on n'y rentre pas tout seul et qu'on a quelqu'un qui est là à côté pour commenter, présenter, faire les honneurs, etc. Mais dans les voyages, on voit très bien que beaucoup de voyageurs ont un accès assez facile alors aux princes, à certains princes. Alors moi, j'ai commencé à travailler, bon, je viens de l'histoire antique, c'est le hasard total qui m'a fait m'intéresser à ce dont je vais vous parler. Il y a quelques années, on m'aurait dit que je m'y intéresserais, j'aurais dit non, quelle horreur. Et maintenant, je trouve ça passionnant. Et je me suis intéressé à des gens qui relevaient des inscriptions antiques, regardaient des antiques, comme on disait, hein, et en particulier à quelqu'un du XVIe siècle, qui est un Silésien, qui s'appelait Zeifried Ribisch, dont j'ai cru que c'était la dernière merveille de l'univers, et qu'au fond, c'est un parmi des milliers d'autres qui se baladent, etc. Et ce Silésien, bah, il rend visite à Gênes, à Andrea Doria. Il dit le prince m'a reçu, il est âgé, etc. Et il visite pas de cabinet, il ne parle jamais, c'est 1549-1554. Hein. Il n'y a pas de cabinet de curiosité à ce moment-là, mais il va visiter le jardin du prince. Et il donne des détails très intéressants d'ailleurs sur ce jardin. Alors, moi je vais vous parler de voyageurs étrangers, mais je n'ai pas de récit de voyage français pour cette époque. Je crois qu'il n'y en a pas pour l'époque d'Henri IV. De voyageurs étrangers et de cabinets de curiosité français. Alors, il m'avait échappé à un cabinet étranger, je l'ai éliminé au dernier moment parce que j'ai voulu rester strict, mais il en reste quand même un, il y a celui de Félix Plater à Bâle, je vous en parlerai quand même un tout petit peu, mais il est très connu. À l'époque d'Henri IV, pourquoi l'époque d'Henri IV? Parce que c'est une époque bénie, une sorte de parenthèse enchantée, après l'édit de Nantes, et avant sa révocation, enfin, ou avant le règne de Louis XIII, où les voyageurs ont libre cours à venir en France. On est très étonné, mais ils l'avaient déjà à l'époque des guerres de religion, hein, les étudiants de l'espace germanique qui viennent, y compris à Poitiers, luthériens, armés, hein, en pleine guerre de religion. Certains, il leur arrive des bricoles, mais d'autres survivent très bien. Hein, et donc, mais à l'époque d'Henri IV, c'est une époque tout à fait heureuse à ce point de vue. Alors, il semble qu'il en circule en grand nombre, mais de toute façon, on n'a pas de statistiques. Moi, je vais vous parler de 5 ensemble. Alors, il y en a qui sont très connus et il y en a qui sont inédits. Je les range dans l'ordre chronologique. Bon, je ne vais pas vous infliger tous les détails. Je donnerai ça pour la publication, soit sur papier, soit en ligne. Je donnerai d'ailleurs, je dois rendre hommage, parce qu'il faut travailler sur des traductions, parce que c'est soit en latin, soit en allemand. Alors, en latin, j'ai fait quelques traductions. En allemand, c'est mon complice François Kim, qui traduit depuis des années, hein, j'ai continué, c'est merveilleux. Ces textes que je ne maîtrise pas toujours, qui transcrit d'ailleurs certains de ces textes. Alors, il y a Plater. Bon, Thomas Plater, le jeune. C'est la Beschreibung der Reisen de cet étudiant bâlois, Thomas Plater, qui a été publié, qui est très connu à cause des publications d'Emmanuel Leroy Ladurie, mais il faut bien dire que la publication fondatrice, c'est celle de, en 1968, d'une baloise qui s'appelait Ruth Kaiser, qui est une édition tout à fait remarquable. Et sans cette édition, le livre de Laurent Ladurie et de Francine Dominique Lichtenhahn aurait été impossible. Et Ruth Kaiser aurait dû co-signer cet ouvrage. Mais enfin, quand on cherche dans les notes et tout, on le voit très bien. Ensuite, un étudiant morave qui s'appelait Zdeněk Brtnický z Waldsteina. Bon, on va le dire en allemand, Zdeněk von Waldstein de Pirnitz. C'est un manuscrit latin. Il est assez peu connu. La partie qui concerne l'Angleterre a été éditée. Été publié avec des fonds de l'Arabie Saoudite, j'ai pas compris, il y a quelques années. Mais bon, il est très intéressant parce que Waldstein, il décrit le théâtre élisabéthain, un des premiers à décrire le théâtre élisabéthain, la matière même du théâtre élisabéthain. Il y a un gros article dans les années 20 d'une archiviste française qui était passée à Rome parce que le manuscrit est à Rome. Alors, je ne vais pas me lancer dans les anecdotes, mais c'est extraordinaire parce que Waldstein est mort à la suite de l'insurrection contre les Habsbourg. Il est mort en prison. Sa bibliothèque a été confisquée et mise dans une bibliothèque d'évêques d'Autriche. Puis quand les Suédois sont venus, ils ont pris la bibliothèque, ils l'ont transportée à Stockholm. Et puis quand la reine Christine s'est convertie au catholicisme, elle est allée à Rome avec toute la bibliothèque, ce qui fait que le livre, le manuscrit de Wallstein est à Rome sous la cote Regina, c'est-à-dire la reine, Regina latin 666. D'ailleurs, j'ai eu du mal à le trouver. Je me suis demandé si c'est tel chiffre 666 qui portait malheur. Mais il est à éditer. C'est en grande partie sans intérêt, mais parce qu'il raconte tout, alors il raconte ses études, ce jour après jour, sur quoi il travaille, quel livre il étudie, etc. Mais aussi des détails intéressants par ailleurs. Donc Bibliotheca Apostolica Vaticana. Voilà. Troisième exemple inédit, il s'agit d'une Beschreibung der Reise due non pas à un étudiant, alors le Morave, il était étudiant, hein, n'est-ce pas, quand il circule. D'ailleurs, il circule avec 25 personnes. Hein. Faut pas voir tous les étudiants ne sont pas des... C'est un noble. Alors là, c'est un cas tout à fait particulier et extrêmement passionnant. C'est un Landgrave. Landgrave de Hesse-Cassel, il s'appelle Moritz, Moritz der Gelehrte, Moritz le savant. Et il vient en France incognito, mais il fait un tour de France comme un étudiant, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, non, dans le sens des aiguilles d'une montre, pour aller voir Henri IV. Et son récit, avec François Kim, nous allons le publier. Son récit est en allemand. François l'a transcrit, traduit, on fait le commentaire. Et ce personnage est un intellectuel, parce que Maurice le Savant, comme son nom l'indique, était un linguiste, un francophone, un ami d'Henri IV. Quand j'ai travaillé avec des collègues de Marbourg, j'ai eu au téléphone quelqu'un qui m'a dit « Vous travaillez sur une époque où la France et l'Allemagne étaient amis. » Et ça m'a plongé dans d'autres recherches. C'est le découvreur de Schütz, c'est un musicien, hein, Maurice le Savant. Et il vient quoi faire avec Henri IV, on a des témoignages bien sûr, il vient lui proposer la couronne de l'Empire au nom des princes protestants. Alors tu as parlé tout à l'heure de la longue durée, je suis quelqu'un qui est bien sûr est persuadé maintenant de plus en plus que l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne, ça n'existe pas. On a l'habitude en France, mais ça, j'en suis conscient dès mon plus jeune âge, parce que je suis un germaniste raté, j'ai toujours regretté que l'histoire de l'Allemagne ne soit traitée que sous l'angle du Troisième Reich. Si on va à la bibliothèque universitaire, il y en a des maîtres et des maîtres sur l'histoire récente de l'Allemagne. Il y a une histoire du monde germanique et en France, mais c'est politique, n'est-ce pas ? Le Royaume de France a toujours été contre ça, sauf que François Ier était quand même candidat à l'Empire et que Henri IV, je ne savais pas, Henri IV aurait bien. Il avait même dit qu'il reviendrait au protestantisme éventuellement. Enfin, il n'était pas à ça près. Hein. Donc, Maurice le Savant vient voir. Mais c'est très passionnant de lire son récit. Son récit qu'il n'a pas écrit lui-même, dit-on, mais bon, c'est un de ses accompagnateurs, le colonel Wittmarkter, qui le consigne. Quatrième cas, il s'agit d'un Tyrolien qui s'appelait Hans-Georg Ernstinger. Alors, c'est un Reisebuch, livre de voyage, un Tyrolien, étudiant, qui... Le texte a été publié en 1877, brut, en allemand. Je l'ai trouvé par hasard sur le net, parce que 1877, ça va, on trouve les livres en entier. Hein. Et avec François Kim, il en a fait la traduction. On essaie de retrouver le manuscrit pour essayer de vérifier les noms. Et Ernstinger, eh bien, ça c'est le manuscrit conservé à la bibliothèque de Darmstadt. Ernstinger, étudiant, se promène et raconte des tas d'anecdotes et parle aussi de collections. Dernier exemple, tout à fait particulier aussi, il s'agit d'un étudiant nurembergeois qui s'appelait Hans Wilhelm Kress von Kressenstein, d'une des grandes familles de Nuremberg, luthérien bien sûr, qui est venu à Poitiers avec trois camarades de la meilleure société. Et l'un d'entre eux m'a beaucoup intéressé parce que sa correspondance est conservée à Nuremberg avec ses parents. Donc il raconte comment il est logé à Poitiers. Alors ils viennent à Poitiers faire des études, mais sans s'inscrire à l'université, avec un prof. Alors pourquoi ? Ils viennent apprendre les bonnes manières. Il y a des réseaux, il y a des parents qui sont venus déjà. On sait où ils logent, ce qu'ils mangent, par le premier d'entre eux qui s'appelle Behaim. Mais Kreis von Kressenstein, très récemment, les archives de la bibliothèque des archives du Germanisches Nationalmuseum de Nuremberg ont mis en ligne ces notes de Kreis, inédites. Alors on a sur écran des notes raturées dans tous les sens, mais tout à fait précieuse, et c'est dans ce texte que j'ai retrouvé l'enseigne du cabinet comptant, parce qu'il dit, voilà, à Poitiers, il y a ça, la couronne impériale. Bon, voilà, et c'est en ligne, je peux vous donner, vous aurez l'adresse, mise en ligne en 2013. Donc tout ça est en train de vivre. Alors j'aimerais bien qu'ils mettent d'autres documents qui sont à Nuremberg en ligne bientôt, mais bon. Alors, les cabinets de curiosité qui sont évoqués, parce que je vais m'intéresser qu'à ça, mais il y aurait énormément de choses à dire. Alors, à vrai dire, quand Dominique a parlé tout à l'heure de la collection d'embrasse et des cuirasses, moi, je n'aurais pas mis ça dans les cabinets de curiosité, parce qu'en fait, par exemple, il y a aussi Rüstkammer de Vienne, qui est aussi un endroit où il y a plein de cuirasses, peut-être les mêmes d'ailleurs que celles d'embrasse, on ne sait jamais. Bon, voilà. Alors, il y a une manière stricte d'aborder les cabinets de curiosité, puis une manière large. Je crois qu'il faut toujours envisager la manière large, parce que la curiosité, elle n'a pas de limite. Mais au moins, les cabinets de curiosité, au sens strict, qui ont été relevés dans ces récits dont je viens de vous parler, sont au nombre de 12 français en France. 12, dont un qui n'est pas tout à fait français, mais c'est celui de Plater, à Bâle. Il n'est pas, il est même pas français du tout. Bon. Mais je n'ai pas eu le temps de l'éliminer. Et puis, il est trop intéressant, mais bien. Alors, évidemment, il faudrait parler longuement des régions qu'ont visitées ces gens, parce que ça ne sert à rien de parler de cabinets de curiosité sans savoir où ils sont allés, parce qu'évidemment, ils ont trouvé ce qu'ils ont rencontré. Ils font toujours les mêmes circuits, dans un sens ou dans l'autre. Il y a un circuit dans le sens des aiguilles d'une montre, et puis il y a un circuit dans le sens inverse. Il y en a qui passent par là, ils viennent du monde germanique, il y en a qui passent par la vallée du Rhône, qui vont en Languedoc, puis la vallée de la Garonne, puis le seuil du Poitou, le Val-de-Loire, Paris, puis après éventuellement le nord de la France, mais c'est pour aller en Angleterre ou aux Pays-Bas, puis ils rentrent. Dans ce sens ou dans l'autre, ce qui fait que le Massif central, il n'y a pas de cabinet de curiosité, ou en tout cas, s'il y en a, on n'en parle pas. Qu'en Bretagne, ils font un raid le plus souvent au Mont-Saint-Michel. Alors, Mont-Saint-Michel, c'est un cabinet de curiosité à soi tout seul, hein, parce que là, il y a les reliques dont ils se moquent souvent, parce qu'ils se moquent des reliques aussi, hein, les luthériens. Ils disent, c'est des trucs ridicules, ils disent là. Par exemple, le petit poignard de Saint-Michel, l'archange qu'on voit au Mont-Saint-Michel, c'est ridicule, mais ils y vont. Je pourrais vous en parler très longuement de ce pèlerinage. C'est un vrai pèlerinage. Il y a des circuits. Il y a un pèlerinage allemand, de jeunes Allemands, au Mont-Saint-Michel après la chute de Constantinople, parce que les jeunes vont à l'ouest alors que les parents essaient de reprendre Constantinople. Enfin, il y a des articles en allemand là-dessus. C'est pas très, très connu en France. Et puis, après, il y a des humanistes qui continuent d'aller au Mont-Saint-Michel, voir la merveille au péril de la mer. Donc, ça, c'est la première chose, l'aspect géographique des choses. Alors, je vais vous donner la liste des cabinets mentionnés. Il y en a qui sont très célèbres et d'autres qui sont très peu connus. Je vous la donne dans l'ordre alphabétique. Le cabinet Agathe, à Arles. J'ai deux mentions, hein, dont une... parce que je voudrais vous parler, j'ai oublié de le dire, l'époque où je me situe, il y a des récits de voyage qui sont très célèbres parce qu'ils ont été déjà publiés. C'est Zinserling, Iodocus Sincerus, Sincerus, Zinserling, qui est, je ne sais pas pourquoi on s'obstine à vouloir en faire un Silésien, c'est un Thuringien. Et puis, il y a quelqu'un... Alors, il a été traduit en français, c'est un texte latin, mais traduit en français dès le 19e siècle, alors tout le monde le cite, et qui se présente d'ailleurs comme un livre qui a été publié au XVIIe siècle comme un modèle de voyage, un récit, un guide, où il dit « là, tu iras à tel endroit, là, tu iras à tel endroit ». Enfin, tutoie les gens, c'est du latin, donc voilà. Vous irez à tel endroit. À Poitiers, il ne faut pas y rester parce qu'il y a trop d'Allemands. Il faut aller à Saint-Jean d'Angély, par exemple, parce que là, il y a un gouverneur qui accueille bien les protestants. Enfin, voilà. Et puis, il y a un autre que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Neumayr von Ramsla, je vais vous en parler un peu plus loin, qui a été publié au XVIIe siècle avec un récit très long, jamais traduit, mais qu'on a en ligne. Alors, il suffit de le lire, le transcrire, le traduire, et il y a tout ce qu'on veut. Bien. Alors, rapidement, je vais vous dire un peu ce que m'a le plus intéressé. Oui, non, j'avais commencé à vous donner une liste. Alors, Agathe, bon. Pierre Daugier à Bagnols-sur-Cèze, une seule mention. Voilà, il y a un cabinet, je pourrais vous donner. Alors, un Denis Baudouin à Tours, ça c'est très intéressant parce que Denis Baudouin, c'est le chantre. Le cabinet Le Chantre de Tours. En fait, on le trouve sous le nom de Le Chantre, mais en fait, il était chantre à la cathédrale de Tours. Et en fait, il s'appelle Denis Baudouin. Et on en a une. C'est Schnapper qui a fait l'identification, c'est pas moi. Bon. Mais là, j'ai un texte qui le donne. Un chanoine de Nîmes, il s'agit d'Antoine Belon, qui a un cabinet de curiosité. Ça, c'est pas connu. Alors, le très célèbre Laurent Cattelan à Montpellier. Cattelan, c'est pas tout à fait un cabinet de curiosité, c'est le pharmacien de Montpellier. Il est très étonnant parce que tout le monde y va, tous les Allemands y passent. Ils disent qu'il est un Allemand, il n'est pas Allemand du tout, il est Maran. Donc c'est un juif converti, originaire d'Espagne, mais il met volontiers sur les livres d'amis Germanus, parce qu'il parle allemand, parce qu'il a voyagé en Allemagne, etc. Que son magasin est plein, enfin, sa officine est pleine d'inscriptions pour attirer les gens. Et alors on va le voir préparer la Thériac, l'Alkermès, etc. Bien. Laurent Cattelan. Collard à Amiens. Alors c'est le seul du Nord. Collard à Amiens, qui est un architecte militaire. Là, il y a très très peu de choses. Collard. Content, bien entendu, content. Là, j'ai trois allusions dans mes différents voyageurs. Laurent Joubert à Montpellier, une allusion de plus, je crois que Pierre, tu avais mentionné dans Curiositas le cabinet Joubert, il me semble, je ne sais plus qui en parle, il y avait une mention, mais là, voilà une deuxième. Bon. Laurent Joubert, Gaspard Dupérier à Aix-en-Provence, alors là, trois mentions de ce cabinet. Le cabinet Plater, bien sûr, mais je le mets entre parenthèses. Richer de Belval à Montpellier. Alors là, à Montpellier, on est dans le vif du sujet, parce qu'à Montpellier, il n'y a pas seulement Richer de Belval, son cabinet, mais il y a le jardin. Hein, jardin botanique pour les étudiants, les professeurs, etc. Guillaume Duvert à Aix, une mention. Et puis un président à Nîmes que je n'ai pas pu identifier. Bon. De quoi vais-je vous parler ? Pas du tout. Pas du tout. Simplement à propos du cabinet Plater, qui est le plus ancien mentionné à Bâle, une confusion probable, mais je n'ai pas pu la résoudre cette question, à propos d'un estomac hérissé de dents d'un poisson ou d'une tortue. J'ai un texte qui dit que c'est la tortue, et puis j'ai un texte, c'est Maurice Dehaese, qui dit que c'est un poisson, qu'il appelle œsophagos. Je ne sais pas qui s'est trompé, mais à mon avis, c'est le même. Encore que, il y a plein d'espèces qui peuvent avoir des dents dans l'estomac. Mais voilà, c'est une blague, mais bon, voilà. Wallstein, alors je vais vous parler de Wallstein, le Morave. Le Morave, si on fait le bilan, il parle de un cabinet de curiosité en France, comptant. Pourquoi ? Il va partout. Il va dans tous les endroits où vont les autres. Et il parle d'un seul. Alors je me suis posé une question, est-ce que c'est par résistance à l'esprit, à la culture Habsbourg, ce Morave qui participe à une insurrection, etc., qui finit très très mal, j'en sais rien. Parce que ce sont ce genre de questions, pourquoi des cabinets à tel endroit, mais aussi pourquoi citer cela et pas cela. Ben voilà. Wallstein, je croyais trouver plein de choses, alors il donne un exemple, un pharmacien, dit-il, il ne dit pas content. À Poitiers, un pharmacien. Alors ça, je pense que c'est parce que c'est un pharmacien. C'est pas un noble, c'est pas un prince, etc. on nomme ou on ne nomme pas en fonction du rang. Un pharmacien nous a montré dans sa demeure beaucoup d'objets exotiques apportés des îles Nouvelles et de l'Inde. Alors ça, il y en a toujours. Il y en a toujours. Je dis, cite au passage, il y a des cabinets de curiosité embryonnaires ou qui n'en sont pas. Par exemple, dans la mairie de La Rochelle, il y avait une embarcation des Indiens d'Amérique, dans la mairie. Je ne sais pas si elle y est encore ou si elle a résisté. À mon avis, non. Mais elle est mentionnée. Tout d'abord, diverses sortes de poissons américains. La pupille d'une très grande baleine, une tête de lièvre cornue, un serpent long de 15 pieds, un échinéïde ou rémora des navires, un petit dragon, le bec d'un oiseau migrateur, du corail blanc, le vêtement et la ceinture des Américains faits de coquillages, des clochettes des mêmes gros comme des os, un miroir où l'on ne se voit pas soi-même, mais on voit celui qui est de l'autre côté, ou on se voit à l'envers, j'ai pas trop j'ai eu des difficultés à traduire. Un autre miroir où l'on voit des couleurs de toutes sortes, une tête d'hirondelle marine, des bonnets blancs et rouges d'Américains faits de plumes, l'un en poil qu'il porte à la guerre par derrière et d'autres nombreuses choses du même genre. Voilà, Wallstein. Et c'est la seule chose. Maurice le Savant. Alors, Maurice le Savant, c'est un cas. Il va chez Plater quand il passe par... Lui, il vient de Hesse. Hein. Il remonte la vallée du Rhin, il passe par le Württemberg. Alors, au passage, mais je l'ai éliminé, il décrit le cabinet de curiosité des ducs de Württemberg, dans le détail. Il y a d'ailleurs, je ne comprends pas, on a parlé tout à l'heure de personnages vivants qui étaient présents dans des collections à côté. Là, à Stuttgart, il évoque un organiste aveugle, dont j'ai retrouvé l'identité, etc. Il doit être là, on le montre, je ne sais pas. Donc, il va chez Plater. Plater n'est pas là, mais c'est sa femme qui fait visiter. Ensuite, on est en 1602. Il va à Aix, visite du cabinet du Perrier. Alors, c'est intéressant, arrivé à Aix le 11 août 1602, visite du cabinet de monsieur de la Perrière. Oui, parce que quand les gens ne sont pas trop célèbres, on déforme leur nom, on oublie. C'est pas trop bien, mais c'est de la Perrière. Et de sa magnifique collection d'antiquités, de médailles, de gemmes, etc., comme l'indique le catalogue imprimé. Gaspard du Perrier était mort en 1530, mais il y avait un catalogue imprimé. J'en ai retrouvé le titre. C'est le rôle des médailles et autres antiquités du cabinet de monsieur du Perrier, gentilhomme de la ville d'Aix en Provence. C'est un cabinet qui sera acheté en 1608 par les États de Provence pour en faire présent à Henri IV. Et j'ai retrouvé l'édition de ce la réédition de ce rôle des médailles dans sur Internet, et ça a été publié en 1866 dans les annales de l'Académie d'archéologie de Belgique, parce qu'un érudit avait acheté l'objet et puis l'a publié, une ancienne collection de numismatique et d'antiquité. Voilà. Ensuite, Maurice de Hesse. Alors, il se livre à des réflexions botaniques, parce que c'est un savant, dans tous les sens du terme, universel, et il s'intéresse particulièrement. Il dit, beaucoup d'entre eux, de ces voyageurs, quand ils descendent vers le midi, quand ils descendent, si je puis dire, disent, voilà, il y a des plantes qu'on a chez nous, mais qui ne poussent pas chez nous. Alors, voilà. Le voyage depuis Orange avait été très agréable, car nous vîmes en abondance non seulement des vignes magnifiques, des oliviers, des grenadiers et d'autres plantes splendides, mais aussi, poussant à l'état sauvage, toutes sortes de simples, étrangers à nos régions, rares chez nous et qui requièrent beaucoup de soins quand on les cultive dans les jardins, comme la lavande, le romarin, le camphrier, le ciste mâle et femelle, le tamaris, l'asperge, l'olivier, le houx, la camomille, le thym, la germandrée des montagnes, la bourdaine et bien d'autres encore qui figureront dans un catalogue particulier. Car il tient un catalogue de botanique, mais ça, on ne l'a pas retrouvé. Je remercie bien sûr François Kim qui a traduit et transcrit, parce que Kim est aussi s'intéresse beaucoup à la botanique, la traduction bien entendu, enfin vous aurez le texte en allemand. Je signale que à Kassel, Maurice le Savant a créé dans l'Ottoneum, qui est un lieu qui doit son nom à son fils Otto, il a créé une collection de plantes, la plus ancienne collection de plantes d'Allemagne, qui avait été constitué par un médecin, Caspar Ratzenberger, et qui comprenait 784 plantes en 3 volumes. Ratzenberger était venu herboriser en Provence. Bon, voilà, tout ça s'enchaîne. Lorsque Maurice arrive à Montpellier, visite rituelle au cabinet Richer de Belleval. Bon, je vais vous en faire grâce. Enfin, c'est là qu'il voit le poisson appelé Esophagos, qui a un énorme estomac que l'on pourrait croire tapissé de feuilles de chardon ou d'artichaut. Alors, est-ce que c'est une tortue ou un... C'est la même collection qui est évoquée par Plater. Est-ce que c'est une tortue ou un poisson? Ça, c'est... Ou est-ce que ce sont deux choses différentes? Voilà. Très intéressant, lors de son passage à Carcassonne, Maurice le Savant observe que les gens y fabriquent de beaux peignes en buis et il en achète un paquet. On produit ici des peignes en buis, fort bien faits et très jolis. Nous en avons fait ample provision. Or, il y en a encore au musée de Cassel. Ces peignes sont au musée de Cassel. Et c'est très passionnant parce que j'ai trouvé d'autres mentions de ces peignes en buis. C'est pas cher et c'est populaire. Ça n'est pas des choses rares. C'est joli. Il s'intéresse d'ailleurs, il est un vrai ethnologue avant la lettre. Hein, lorsqu'il est en Suisse, il décrit les fermes, l'élevage. Il ne dédaigne pas de dire que les cochons du Dauphiné sont noirs, etc. Enfin, bien. Il passe à Poitiers, il ne parle pas de content. Il visite, il y rencontre le fils du duc de Wurtemberg dont il a vu les parents quelques jours avant. Ils vont s'exercer à l'équitation, etc. Parce que tous ces gens cherchent à apprendre en France les manières françaises, etc. La danse, l'équitation. Mais il reste quelques jours à Poitiers seulement. Content, il ne connaît pas. Il va rencontrer Flandrine de Nassau parce que c'est la fille de Guillaume le Taciturne. Il se trompe de prénom, ce n'est pas grave. Ernstinger, le Tyrolien, lui, il a dû visiter Ambras. Il est originaire d'Innsbruck. Mais bon, c'est hors de mon propos. Ernstinger visite le cabinet du Perrier à Aix-en-Provence. Alors, de quoi nous parle-t-il là ? D'antiques, surtout, dans le cabinet du Perrier. Des médailles, pièces de monnaie anciennes, un satyre et une Vénus, etc. Richer de Belleval à Montpellier. Un apothicaire allemand à Montpellier, il ne le nomme pas, mais c'est Catelan, qui fabrique la thériaque en public. Alors, il donne le détail. Là, il dit qu'il y a un bocal en verre dans lequel un grand nombre de vipères qu'il avait fait venir d'Afrique. Il les en tira les unes après les autres, les laissa ramper en les frappant d'une petite baguette jusqu'à ce que mort s'en suive. Et puis ensuite, il fait sa cuisine. Hein. Non, je me suis trompé, il le cite quand même, mais pas tout de suite. Cet apothicaire de son nom, M. Catelan, avait également de la poudre de cyprès et d'autres poudres odorantes, des eaux parfumées, des petits pots de verre bleu décorés de toutes sortes de fleurs et de personnages peints, dont certains dorés, dans lesquels il vendait ses eaux et ses poudres. Oui, il a dit qu'il était apothicaire allemand. Hein ? Mais il n'est pas allemand, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, Ernstinger, il visite le cabinet Condan à Poitiers. Donc ça, Pierre connaît bien ça et l'a mis en ligne sur Curiositas, les textes qui concernent, je n'y reviens pas. Ernstinger à Tours, alors le cabinet Baudouin. Voilà, à Tours. Le beau cabinet de M. Baudouin, D-O-I-N-G. Où nous avons vu parmi les curiosités qu'il présente 22 beaux bronzes très anciens. Alors là, il y en a des lignes et des lignes. Hein, où il y a, par exemple, des coupes en cornes de rhinocéros, des agates et de l'ambre serties de vermeil, des salières ornées de perles, des pièces de vaisselle, des pierres rares illustrant la pousse du rubis. La pousse du rubis. Alors c'est en allemand, ça a été compliqué à traduire, mais on voit le rubis poussé à l'intérieur des comment on appelle ça, des géodes, en quelque sorte. Hein. La pousse du rubis, des morceaux de bois et des baguettes d'Arabie, un petit enfant long d'un doigt parfaitement conformé, une étrange pierre noire qui, si l'on essaie de brûler un fil enroulé autour d'elle, l'empêchera de s'enflammer, habillement, vêtements et armes d'habitants du Nouveau Monde, une toile de bois tissée, un morceau de bois dont la moitié est pétrifiée, etc., etc. Donc c'est Antoine Schnapper, comme je le disais tout à l'heure, qui a identifié un certain Baldwinus Cantor Divi Gratiani, en fait Divi Gatiani, chantre de la cathédrale de Tours, Saint Gatien, et qui était, ce Baldwinus était une relation de Paul Contant. Et donc ce cantor, le chantre, eh bien c'est Baudouin. Bien, alors enfin, Kreis von Kressenstein, qui cite, alors Kreis von Kressenstein, sur écran d'ordinateur, lu avec beaucoup de difficultés, même par François Kim, dans ses notes, parle du cabinet Contant. Alors, il y a une petite fiche qui a été insérée dans le manuscrit d'une autre écriture que Kreis von Kressenstein. J'ai pensé que c'était à une autre époque de sa vie, j'en sais rien, mais c'est peut-être un de ses camarades, qui dit, quand on était à Poitiers, on a vu ça, 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 ça et ça. Et il dit, chez un apothicaire, et au-dessus, il a rajouté Contant. Nous avons vu un cabinet ou Kunstkammer, où l'on trouve de nombreuses curiosités provenant de l'étranger et des Indes, animaux, pierres, plantes, etc., qu'il a spécialement consigné dans un livre in quarto pour le profit des visiteurs de passage. Et puis, ailleurs, dans la demeure d'un bourgeois et apothicaire à l'enseigne de la couronne impériale, alors j'ai cru, moi, que c'était à cause des voyages en Allemagne, non, c'est la couronne impériale, bien sûr, c'est la fritillaire du bouquet. À l'enseigne de la couronne impériale, il y a un cabinet de curiosités avec toutes sortes de belles plantes présentées dans des livres reliés, toutes sortes de poissons, de serpents, de bêtes, de miroirs, de perspectives, en français dans le texte, instruments d'optique ou trompe-l'œil, d'animaux tels que crocodiles, tatous, dragons, rémoras, salamandres, des vêtements d'indiens, toutes sortes de tableaux et d'ornements. Kreis, quand il passe à Montpellier, bah, il parle là du jardin des professeurs de médecine et des étudiants, superbe jardin. Avec, ils sont très fascinés par le classement, les inscriptions qui sont portées partout. Bon, voilà. Laurent Catelan, et il dit, là, il ne se trompe pas, il dit, c'est un juif converti de Catalogne en Espagne, qui donnait à voir beaucoup de choses étranges, etc. Qui dit d'ailleurs, il a fait des choses étranges dont il avait fait publier divers livres comme Licorne, Bézoar et autres ornés de gravures sur cuivre et que l'on ne trouve nulle part. Alors ces livres, ils existent. Il y a un traité de Catelan sur la licorne et un traité du Bézoar. Et c'est intéressant parce que ces livres datent de ont été publiés en 1623 et 1624. Ça veut dire que les notes, évidemment, datent de ce moment-là, bien après le passage en 1608-10 de cet Allemand en France. Le 7 octobre 1610 à Arles, en note, en marge, parce qu'il y a plein de trucs en marge, raturé, à Arles, sinon nous avons vu chez un orfèvre, Agathe, un beau cabinet d'antiquités et autres objets. Seul qui en parle par ailleurs, c'est Zinserling, monsieur Agathe. Je ne sais pas si c'est le nom réel de ce monsieur ou l'enseigne, parce qu'au fond, Agathe. Bon, voilà. Voilà ce que dit Zinserling. Il y a ici un orfèvre nommé monsieur Agathe qui possède un cabinet rempli des curiosités les plus rares. Tout ce que renferme ce dernier est décrit dans un catalogue imprimé. Tu verras entre autres chez monsieur Agathe une jolie vue d'Arles faite par lui. Enfin, le cabinet du Perrier. Je rappelle Zinserling parce que je liste rapidement les cabinets de curiosité qu'évoque Zinserling, qui a voyagé en France entre 1612 et 1618, c'est après la mort d'Henri IV, mais vous me ferez grâce de cette entorse. Le cabinet du prince Charles de Gonzague à Nevers, alors c'est un peu particulier parce qu'en France il n'y a pas de cabinet princier. Oui, j'en ai pas parlé, en Allemagne il y a énormément de cabinets princiers, en France non. Il y a quand même un cabinet royal. Quand Maurice le Savant va voir Henri IV, il le trouve dans son cabinet, son bureau, et c'est une espèce de cabinet de curiosité, mais personne ne vient, sauf le Happy Few. Et là, il rencontre Henri IV qui est en train de discuter avec Casaubon sur un manuscrit, et Maurice leur résout la question. C'est pour ça qu'il est savant. Bien. Celui de Monsieur le Chantre, c'est Zinserling qui parle, donc c'est Baudouin à Tours. Celui d'un procureur de Tours, on ne sait pas lequel. Ah, c'est lui, Zinserling, qui dit qu'à l'hôtel de ville de La Rochelle, il y a une embarcation faite d'écorce d'arbres dont se servent, dit-on, les Indiens d'Amérique. Enfin, les Indiens sauvages, pardon. À Bordeaux, le jardin du conseiller Raymond, mais ça, c'est un cabinet d'antique, de statut, très intéressant d'ailleurs. À Poitiers, le cabinet de Contant. Zinserling nous dit qu'à Carcassonne, c'est pas un cabinet, mais il y a les peignes et boîtes de buis, qui est une spécialité du coin, comme le dit Maurice de Savon. Laurent Castellan à Montpellier, là il écorche son nom. Le cabinet Agathe, dont je viens de vous parler, et le cabinet Ferrier ou Perrier, et il ajoute, je ne suis pas sûr du nom. Bien. Et je vais terminer avec le dernier texte publié en 1620 par Johann Wilhelm Neumayr von Ramsla, qui accompagnait Jean-Ernest le Jeune, duc de Saxe-Weimar. Alors un long ouvrage. Et j'en extrais deux allusions. À Aix-en-Provence, le président Vert, il s'agit de Guillaume Duvert, premier président au Parlement d'Aix-en-Provence, ami de Peiresque. Mais il dit, sa grâce, le prince, ne l'a pas vu. Il y a le cabinet Vert, mais sa grâce ne l'a pas vu. Et puis à Nîmes, il est guidé, cette fois-ci, à Nîmes, par le professeur Christianus Pistorius, qui est originaire de Nida en Hesse, donc un compatriote, c'est normal, conduisit sa grâce un peu partout, entre autres chez un chanoine, qui montra à sa grâce son cabinet de curiosité, où il y avait entre autres belles choses, les antiquités et œuvres d'art suivantes, une tête de satyre grande, de marbre blanc, et très artistement faite, la tête du Romain Marius, très ancienne, de bronze, un monument quadrangulaire sur lequel étaient sculptés les bustes des divers Romains, grandeur nature et très vieux, etc., etc. Des anneaux d'or, des pierres gravées, etc. Or, ce chanoine, c'est Antoine Belon, dont, après sa mort, on a établi un inventaire, on a fait l'inventaire de sa collection. Alors, je suis très intéressé par ça, parce que dans la carte archéologique de la Gaule sur Nîmes, c'est cité, il y a une publication d'ailleurs de ce texte de notaire, publication dans le bulletin archéologique du comité des travaux historiques en 1882. On a, l'inventaire ne porte que sur ce qui a de la valeur, hein, les bagues, les pierres gravées. Mais je suis sûr que dans cette collection très mal connue, dont ne tient pas compte la carte archéologique d'ailleurs, la pierre avec un buste d'un couple de Romains, elle est peut-être dans les collections du musée de Nîmes actuellement. Enfin, il va falloir chercher. Bon, je ne vais pas conclure. Il y a plein de questions qui se posent, bien sûr, à la suite de cette énumération. Alors, j'ai dit à Pierre tout à l'heure, moi, je suis persuadé, mais c'est toujours la même chose. Hein, quand on a des sources, on a tendance à les gonfler. Je suis persuadé que les cabinets, c'était fait pour les voyageurs. Et j'allais dire pour les voyageurs allemands. Mais il me dit non, mais non. Mais je voudrais savoir si les Poitevins allaient visiter le cabinet Contant. A-t-on des preuves de Poitevins visitant le cabinet Contant ou de Rochelet? Sans doute y avait-il quelques pharmaciens de La Rochelle qui est venu ou de Tours. Bon. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la partie. Ce que nous voyons dans les récits de voyage, c'est la partie émergée d'un iceberg. Hein. Il y a tous les cabinets de seconde zone dont on ne parle pas parce qu'ils ne sont pas sur les circuits. Peut-être y avait-il quelques curieux, mais comme aujourd'hui, hein, il y a encore. Moi, j'ai connu des gens qui avaient encore des sortes de cabinets de curiosité parce qu'ils s'intéressaient à tout. Ils ramassaient tout, des coquilles, des coquillages, des monnaies. Il y en avait encore. Une génération qui disparaît. C'est la partie émergée d'un iceberg. Il faudrait prendre en compte plein de choses. Il faudrait prendre en compte, pour reconstituer l'histoire de la curiositas, les livres d'amis. Mais je peux vous dire tout de suite que j'en connais déjà un certain nombre. Jamais on n'y figure un cabinet de curiosité. Alors, si vous en trouvez un, ça sera un scoop représenté. Ni même des objets ayant fait partie de cabinets de curiosité. Bon. Les livres de comptes, bien sûr, lorsqu'ils existent. Pour mes Nurembergeois, je sais qu'il y a un livre de comptes à Nuremberg. Je brûle de pouvoir enfin, François Kim le lira. Et puis, les correspondances, lorsqu'elles existent. Mais il parle rarement. Nos Nurembergeois, quand ils viennent à Poitiers directement, ils croisent Henri IV. en franchissent un mot. Il y a un type qui les aborde, des beaux messieurs, des belles dames qui traversent avant eux, et puis il y en a un qui leur dit vous êtes qui ? Et ben, on est des étudiants allemands, on va étudier le français, et il les salue, et il dit c'est Henri IV, et il écrit à son père, c'est Henri IV. Et puis quand ils s'échappent de Angers, parce qu'ils sont à Poitiers, puis ils vont à Angers, quand ils s'échappent d'Angers, ils veulent absolument aller à Nantes. Pourquoi ? Pourquoi ? À cause de l'édit de Nantes. J'avais pas pensé. Bon. Des questions se posent quant à la présence ou non de cabinets à tel ou tel endroit. Alors évidemment, une université, mais il y a des universités où il n'y a pas de cabinet mentionné. Des riches, un parlement, parce qu'il y a des gens suffisamment riches, mais il n'y en a pas partout. La proximité, évidemment, d'un port comme La Rochelle ou Marseille. Alors Marseille, ça c'est très intéressant, à Marseille, il n'y a pas de cabinet. Enfin, j'en ai pas trouvé de notoire. Mais la curiosité, elle est partout. C'est-à-dire que dans le port, il arrive des trucs de partout, et dans les rues, on montre des animaux savants, etc. Et c'est moins cher qu'ailleurs, évidemment. On cite ou pas, oui, je termine, on cite ou pas les noms, hein, en fonction de la dignité, du fait qu'on est noble ou pas, etc. Et puis, ces cabinets, la visite du cabinet permet d'en constituer d'autres. Hein, Plater qui emprunte une côte de baleine, qui l'envoie à Bâle, et ça va constituer une partie de son cabinet à lui. Voilà. Je m'arrête là. Je suis désolé, j'ai été trop long.
Bon, donc c'est... Oui, l'autre micro, il marche bien. Oui, donc on a pris un peu de retard par ma faute d'abord, non pas par ta faute, parce que c'était... Alors peut-être juste une ou deux questions très vite, puis après on fait une petite pause. Est-ce qu'il y a une ou deux questions vraiment brûlantes, si je puis dire, à Jean Yernard ou éventuellement à moi-même ? Sinon, vous aurez droit à une pause très vite.
La Perrière est vraiment très très intéressante parce qu'il y a un G point de la Perrière, c'est Guillaume de la Perrière, qui est un des premiers auteurs de livres d'emblèmes, donc qui se sert précisément de ces signes très particuliers dans le théâtre des bons engins, mais il est peut-être plus connu par le deuxième ouvrage qu'il produit dans les années 50, qui est l'amorosophie. Voilà, et on en a parlé tout à l'heure ce matin, hein, ces jeunes nobles se servaient aussi de livres d'emblèmes qu'ils interfoliaient pour y faire déposer ces marques identitaires. Il y a vraiment un point de connexion, hein, réel entre les cabinets de curiosité, la pratique des albums et microrooms.
Oui, ça me fait penser à quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est qu'il est très probable que dans ces cabinets, il y avait des livres d'or. Ce que nous appellerions des livres d'or. Parce que cette époque est friande. On laisse sa trace. On laisse sa trace ou on emporte une trace qui sera preuve de son passage. Les livres d'amis, c'est quelque chose qu'on transporte toute sa vie. On y fait noter, c'est extrêmement précieux. Il y a la date, il y a le lieu, et il y a souvent les armoiries, etc. etc. Mais je voudrais signaler qu'on a publié, alors j'ai cru que c'était une mine, mais je me le suis procuré tout de suite. Il y a quelques années, on a publié le premier des Trinkbücher d'embrasse. C'est-à-dire que les gens venaient boire un coup, c'est un rituel, et ils signaient dans un livre dont le premier tome a été publié par Vienne, à Vienne, avec en facsimilé, avec l'identification de tous les signataires. Il n'y a pas un Français. mais l'identification de tous les signataires, et ça ressemble fichtrement à ce qu'on trouve dans les premiers livres d'amis, c'est-à-dire qu'ils mettent des sigles, hein, GGW, etc., la date, la signature. Et c'est donc un travail incroyable d'identification, mais là, cet ouvrage est à votre disposition, il y aura la référence, etc., c'est tout à fait étonnant. Et ces gens ont dû visiter le cabinet de curiosité, forcément. Mais on montre l'endroit où se faisait le rituel bachique, les récipients en verre qui servaient à boire un coup, etc. Et donc.
S'il y a d'autres questions, je peux faire passer le crachoir.
Une dernière question, puis de toute façon, on aura le temps d'en reparler après, mais une petite dernière question avant le café.
Merci. Est-ce qu'on a des traces de ces cabinets aujourd'hui ou pas? S'il vous plaît.
Ah, mais il n'y en a plus.
Voilà, c'est ça, mais
sauf lorsque les collections sont suffisamment nobles, en quelque sorte, pour être passées dans les cabinets nationaux actuels. C'est-à-dire qu'il y a dans les grandes collections des bibliothèques ou des grands musées européens des objets qui sont passés à l'origine par des cabinets de curiosité, qui viennent de cabinets de curiosité. Bon, je ne vais pas me lancer dans des anecdotes, mais par exemple, il y a une chose tout à fait étonnante. Lorsque le Silésien dont je vous ai parlé tout à l'heure, Ribiche, passe à Cologne, il dit « Ah, il y a une représentation sur une pierre dure des rois mages. Ben, » ce n'est pas les rois mages, et ce n'est plus à Cologne. C'est une pierre gravée antique qui représente, je crois, Alexandre et je ne sais plus qui. Et en fait, ça a été identifié à l'époque comme les rois mages parce qu'elle est noire et blanche et que donc sur l'épaule, sur la cuirasse, il y a un personnage qui a une tête noire. C'est le roi noir des rois mages. Et c'est maintenant à Vienne parce que ça a été volé, le pédigré de l'objet. C'est une des belles pierres antiques qui est maintenant au cabinet d'Autriche. Voilà. Et donc, il y a des objets, mais dans les collections du cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale, il y a évidemment des monnaies qui étaient, alors qui pourraient être considérées comme ayant fait partie d'un cabinet de curiosité, mais tout ça s'est dispersé. Le cabinet comptant, il y a sans doute des objets qui se trouvent dans des endroits, mais on ne sait pas. On ne sait pas où le cabinet a été dispersé. Les collections du duc de Berry, je ne sais pas si on en a des traces. Voilà. L'existence, ce sont les livres, comme on l'a dit tout à l'heure. Hein?
Bien, merci beaucoup. On propose une petite pause pour monter là-haut. Entraînement pour un petit café.
Café.
Octroyons-nous 10-15 minutes maximum, s'il vous plaît, pour que le retard accumulé ne pèse pas trop. Merci.